minutes, Mimi. On va louper le début.
Passe devant, j'écouterai. En podcast.
Il y a toujours quelque chose qui nous ramène à cet endroit d'où l'on vient. Et quand on y remet les pieds, on a forcément avec nous quelque chose de ce qu'on a vécu ailleurs. Aujourd'hui, Alexis Bloombergs, originaire de Dan, revient ici avec son second roman dans la valise. Il en parlera dans quelques minutes, chers auditeuristes, car il sera également à votre rencontre à la librairie Émile Ranjou à Château-Gontier le 11 novembre. Dans la seconde partie de cette émission, on vous propose un aperçu du SNU, Service National Universel, mis en place par Emmanuel Macron en 2020, après une phase de test en 2019. Ce sont deux jeunes ambassadeurs du SNU en mission d'intérêt général qui nous en parlent aux côtés de leur tutrice Estelle Leprêtre-Kern. Évidemment, vous en avez l'habitude, comme chaque mardi, on retrouve en fin d'émission la chronique de Donatien. Mais d'ailleurs, chers auditeurs, bienvenue et je ne suis pas seule. Évidemment, Lucie est à mes côtés. Bonjour Lucie.
Bonjour.
Cette agitée du local commence avec toi. Quelles sont les nouvelles par ici ?
Aujourd'hui, Margot, je vais commencer par un sujet un peu lourd, mais ne vous inquiétez pas, chers auditeurs, ça va bien se passer. Vous avez peut-être entendu parler du projet Zéro Artificialisation Nette, ou ZAN, pour aller plus vite. Pour rappel tout de même, c'est un projet qui vise à freiner l'artificialisation des sols en la réduisant de 50% sur 10 ans pour arriver à une artificialisation nulle d'ici à 2050. Mais les Pays de la Loire ont demandé à l'État une dérogation pour limiter la réduction à 34% parce qu'ils craignent notamment des tensions trop fortes sur le prix de l'immobilier à cause de l'augmentation de la population dans l'Ouest. Et oui, on est un peu trop populaire, Margot. Bon, je vous raconte pas tout ça juste pour vous arroser de chiffres et me donner l'air intelligente. Je vous parle de ça parce que hier, lundi 6 novembre, avait lieu à Angers une rencontre régionale avec plus de 400 maires des 5 départements de la région. Finalement, la majorité régionale a bien voté la réduction des 54% d'artificialisation d'ici à 2030 contre les 34% qui étaient demandés par la région. Une bonne nouvelle pour le climat, donc. Cependant, le groupe L'Écologie Ensemble a été assez déçu de cette entrevue. Il déplore notamment le fait que Christelle Morançais, présidente du Conseil régional, n'annonce aucun outil ou feuille de route. Ils estiment qu'elle renvoie la responsabilité aux communes et aux EPCI.
Eh bien, Lucie, merci pour cette mise au point. D'autres décisions territoriales, tant qu'on y est ?
Plus ou moins, Margot, cette fois, je vous parle gestion de déchets. En fait, la communauté de communes des Couévrons va mettre en place, dès le 1er janvier 2024, un badge pour ouvrir les conteneurs d'ordures. Il sera fourni et récupérable dans les différentes mairies du territoire. Et l'objectif de cette mesure est de diminuer la quantité des ordures ménagères, d'encourager au meilleur tri et de contenir la gestion des déchets, entre autres. La facturation de ce service va remplacer l'ancienne taxe d'enlèvement des ordures ménagères, tout en ayant pour objectif de s'adapter au foyer.
Si nous partions à Mélet du Maine maintenant.
Avec plaisir Margot, pour commencer, le centre social L'Espace Mélinois lance sa deuxième édition de la semaine du bien-être du 13 au 17 novembre. Relaxation par la musique, massage bien-être, réflexologie plantaire, art-thérapie, etc. sont au programme. Et surtout, tous les intervenants sont locaux. Vous pouvez vous inscrire et vous informer au 02 43 64 39 98. Et puis, toujours à Mélet du Maine, l'association Armen organise le 18e salon d'automne qui aura lieu celui-ci du 20 novembre au 10 décembre dans le hall de la mairie avec comme invité d'honneur Fabrice Milleville, un peintre mayennais, et une trentaine d'autres peintres et sculpteurs qui seront également présents pour vous présenter leurs œuvres. Le vernissage aura lieu donc dans le hall de la mairie, avec remise des prix le dimanche 19 novembre. On se déplace encore un peu, Margot, à Montsûr cette fois. L'accès au parc animalier ainsi qu'à l'arboretum est interdit du fait des dégâts causés par la tempête. Et puis, j'ai envie de finir cette brève sur une bonne nouvelle. Vendredi matin, les conseillers départementaux Nicole Bouillon et Louis Michel ont déposé les panneaux Terre de Jeux pour les JO 2024 à la commune de Bourgon et Bourgneuf-la-Forêt.
Merci Lucie. Bonjour Alexis Bloombergs.
Bonjour.
Vous êtes originaire de Dan en Mayenne. Vous avez enseigné les lettres pendant 15 ans et beaucoup voyagé. Et puis vous êtes passé à l'écriture avec un premier roman, La tristesse des mandarines, sorti en 2009 aux éditions Publibook. Vous y abordiez la question de la mort dans ce qu'elle a de plus glaçant, le fait qu'on n'y échappe pas. Aujourd'hui, vous avez sorti votre deuxième roman, c'est de celui-ci dont on va parler aujourd'hui, La soie et le fusil, en septembre 2023 aux éditions Complicité. Donc dans ce roman, vous revenez sur un fait historique, la tragédie de Tine en Ardèche. Vos personnages principaux sont 8 jeunes résistants entre 19 et 21 ans, idéalistes, déterminés et peu expérimentés. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots un petit peu sur donc cet événement historique que vous avez souhaité raconter dans ce roman ?
Donc le roman part effectivement d'un fait historique qui s'est déroulé en août 1943 dans le sud de la France, en Ardèche, où on a envoyé effectivement, il y a une cellule de la résistance française qui s'appelait Max et qui a organisé en relation avec les services secrets américains de l'époque, l'OSS, un parachutage allié. En fait, il s'agissait d'envoyer dans cette zone sud des armes, des munitions, des radios, de l'argent liquide pour armer un peu, pour faire de la zone sud une place un peu plus forte que ce qu'elle n'était. Parce que finalement, à cette époque-là, entre la France occupée au nord et puis l'Italie mussolinienne au sud, les taux se resserraient dangereusement. Et donc il était vital, notamment en vue, pas que, mais notamment en vue du débarquement allié, d'armer la zone sud. Et donc on envoie ces 8 jeunes hommes, que vous avez très bien présentés, ils sont effectivement très jeunes, un peu, de certains diraient trop, pour préparer et pour réceptionner ce parachutage dans un tout petit hameau ardéchois qui s'appelle Tastevin, et qui se trouve juste au-dessus d'un autre hameau qui s'appelle lui Tine, d'où le sous-titre de l'histoire. Puisque c'est comme ça qu'on a appelé très rapidement ce fait historique, la tragédie de Tine. Voilà.
Donc justement, vous nous racontez dans ce roman donc cette histoire, cet événement. Comment vous avez découvert cette histoire de la tragédie de Tine et donc l'histoire de ces jeunes hommes en particulier ?
Écoutez, c'était absolument par hasard. C'était une coïncidence énorme puisque. Mes parents avaient des amis qui avaient une maison en Ardèche, une magnanerie, donc vous savez l'endroit où on élève des vers à soie, et dans le sud d'Ardèche, dans un lieu dit qui s'appelle le Pouchol, et puis un après-midi d'été, j'ai voulu aller me promener à Tine justement parce que ils ont une très belle église romane qui est absolument superbe, c'est une espèce de mini hameau, hein. Il y a 6 habitants hein, pendant l'année, 6 à 8 habitants et c'est dans les montagnes, on n'y accède que à pied, il faut garer la voiture un peu plus bas et puis monter par des chemins de muletiers, donc ça me paraissait être une promenade dominicale parfaite, et puis par hasard encore une fois je suis tombé dans une petite brocante tenue par une vieille dame, donc une brocante pour vous dire constituée vraiment de briques et de brocs avec 2 planches et 4 tréteaux. J'ai trouvé une vieille photo qui représentait des paysans ardéchois au travail de la séricicultture, c'est-à-dire le travail des vers à soie. C'est elle qui a servi du coup d'illustration pour la première de couverture du livre. On lit dessus l'élevage du vers à soie, le décoconnage dans une ferme ardéchoise. Donc le décoconnage, c'est le fait de retirer, de brûler les cocons de vers à soie pour en ôter le fil. Ils sont constitués à chaque fois d'un seul fil et donc on veut garder ce fil uni. Non brisé, plutôt. Et puis, j'ai dû tenir la photo dans les mains un peu trop longtemps, parce que la vieille dame est venue, et puis elle a montré, comme ça, d'un geste assez négligé, 2 personnes qui se trouvaient sur la photo. Et je lui ai dit, oh, bah, ceux-là, ils sont morts peu de temps après, je crois bien. Et donc, ça m'a saisi. Et donc, je lui ai demandé quelques précisions, puis elle m'a dit, oh, bah, vous savez, les Allemands, les représailles. Voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé. C'est à partir de là que j'ai fait des recherches. Et c'est là que j'en suis arrivé à la tragédie de Tine et à l'idée de vouloir rendre hommage à ces résistants et puis également à la population civile en fait qui n'était pas nécessairement ni des grands résistants ni des méchants collabos en fait hein. La plupart des Français à cette époque-là on a tendance à l'oublier mais vivaient plutôt dans l'entre-deux en essayant tant bien que mal de survivre.
Exactement.
Donc voilà, c'est comme ça que c'est parti.
Au sein du récit, on remarque bien justement les enjeux, la complexité du quotidien pour chaque personne et notamment dans l'entourage de ces personnages dont vous nous faites le récit. Donc vous avez découvert cette photo. À partir de cette photo, donc il y a 2 personnes effectivement qui vous ont plus interpellé par leur histoire. Comment vous avez réussi à travailler cette histoire entre la fiction et la réalité?
Ça n'a pas été facile. Je vous remercie de la question, elle est intéressante. Ça n'a pas été facile parce que donc il a fallu d'abord lire beaucoup, recouper, synthétiser, et en chemin se rendre compte que qu'ils n'étaient pas tous d'accord ensemble, les historiens. Ça a été le premier constat très surprenant, c'est qu'à 80 ans d'écart, puisqu'on est toujours en 2023 et que ça fait vraiment 80 ans pile, ça c'était une première chose. La deuxième, ça a été de construire finalement l'histoire à partir de la grande histoire, l'histoire avec un H majuscule, et donc de se demander ce qui était le plus pertinent pour construire un espèce de polar historique à la fin. Donc ça a été ça, beaucoup de recherches et puis beaucoup de scrupules. Pour être tout à fait honnête, j'utilise les noms propres de lieux et de personnes sont les noms réels. Donc il m'a fallu beaucoup de temps pour dépasser cette gêne de parler de gens qui ont vraiment vécu en utilisant leurs noms propres. Les incohérences des historiens m'ont plutôt aidé. Si les historiens ne sont pas d'accord entre eux, ça veut dire que la fiction a quand même à voix au chapitre, en quelque sorte. J'ai réussi à dépasser cette gêne et à présenter ce polar-là qui j'espère, leur rendra hommage, quoi.
On s'est efforcé au fur et à mesure des années de garder des traces, des témoignages directs, des survivants, que ce soit donc de cette période de la Shoah ou même de la résistance dont votre roman parle plus précisément. Et en fait, aujourd'hui, cette partie de notre histoire collective a peut-être besoin justement de continuer à être racontée. Simone Veil parlait, elle, de devoir de transmission, non pas de devoir de mémoire. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ce que vous faites aussi dans cet ouvrage.
C'est exactement ça. J'adore. J'avais pas en tête cette citation de Simone Veil, mais c'est exactement ça, oui. Le devoir de mémoire est une chose, mais très théorique. Le devoir de transmission, effectivement, a plus de sens et plus de portée, surtout. C'est tout à fait ça.
Donc là, j'ai vraiment avoir envie de revenir donc dans l'histoire en elle-même, puisqu'avant même l'avant-propos, dans votre ouvrage, vous citez Philip Roth avec cette phrase « La terreur de l'imprévu, voilà ce qu'occulte la science de l'histoire qui fait d'un désastre une épopée ». Finalement, dans ce récit, vous avez voulu rappeler peut-être qu'il y a cette terreur dans ce contexte de danger et d'incertitude permanente, et que ça peut-être c'est pas assez raconté aujourd'hui.
Vous mettez le doigt vraiment sur le cœur, enfin sur l'un des enjeux principaux et sur ce qui moi m'a beaucoup animé et m'a donné vraiment beaucoup envie d'écrire cette histoire, c'est que il faudrait imaginer, et donc c'est plus facile aujourd'hui, que au moment où la guerre en Ukraine a éclaté, si par un jeu d'alliance malheureux mais tout à fait crédible, la France était rentrée en guerre dans ce qui serait devenu une troisième guerre mondiale, à ce moment-là, on aurait été appelé. Il y aurait eu l'armée régulière, il y aurait eu potentiellement des réservistes, et puis il y aurait eu une mobilisation. À 19 ans, il faut se rendre compte de ce que c'est. Moi, je me souviens de mes 19 ans, je m'en souviens même très bien, 19 ans, 20 ans. J'étais pas formé politiquement comme les personnages du roman le sont. Eux, ils l'étaient, ils savaient exactement ce qu'ils voulaient, ils savaient exactement ce qu'ils ne voulaient pas. Et effectivement, on a beau être formé dans des maquis, c'était leur cas, quand on se retrouve, comme c'est le cas tout au début du roman, à être sur le point de tuer un soldat allemand pour pouvoir placer des charges explosives sur un pont de façon à retarder l'avancée allemande dans le sud de la France, la peur qu'on ressent à ce moment-là est assez difficilement imaginable. C'est quelque chose que j'ai trouvé admirable, évidemment, que je trouve toujours admirable et qui me fascine.
Et alors j'ai envie de terminer cet entretien avec vous par la chanson « Les jardins nous attendent ». Elle est citée plusieurs fois, elle fait partie vraiment de l'histoire de ces personnages. Donc cette chanson date de 1941 de Jean Tranchant. Pourquoi cette chanson? Est-ce que c'est quelque chose qui, à vous évoque quelque chose de particulier, ou est-ce que ça fait partie de, historiquement, dans ce que vous avez pu trouver, quelque chose qui réchauffait les cœurs peut-être à cette époque?
Ah oui, parce qu'il y a eu, il y a plein de scènes touchantes dans cette histoire, notamment quand ils sont en train d'attendre. Ils sont dans une espèce de maison qu'ils appellent la Bastide, et donc ils se lient d'amitié parce qu'ils attendent longtemps. Finalement, ils attendent une nuit sans lune. pour effectuer, pour que le parachutage ait vraiment lieu, parce que à cette époque-là, les parachutes avaient la fâcheuse tendance de briller, ils étaient en soie, et donc avec la lune, ça réverbérait énormément, donc il fallait attendre la nuit sans lune, donc ils ont beaucoup attendu, et pendant cette attente, ils se sont liés parfois d'amitié avec certains des villageois qui habitaient autour d'eux, et donc il y a des fêtes, il y avait la fête des moissons, il y avait la Saint-Jean, etc., pendant lesquelles ils ont... Et donc, ça c'est un fait aussi historique, hein, ils ont fait une grande fête un soir en écoutant de la musique, etc. Donc à partir de là, moi je me suis demandé ce qu'ils pouvaient écouter, ce qu'on pouvait avoir à cette époque-là comme morceau. Et j'ai la chance d'avoir un papa qui était très 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 mélomane et qui avait un double disque, compact disque, donc ça paraît déjà tellement vieux jeu de parler de ça, mais dans laquelle il y avait les vieilles chansons françaises. Et donc, parmi toutes ces chansons, j'en ai choisi une. Ça, c'est plutôt, on va dire, la licence de l'auteur. J'en ai choisi quelques-unes, finalement, dont celle-là, effectivement, qui est très belle parce que c'est la promesse, finalement, un peu idéaliste qu'ont dans le cœur et dans l'âme tous ces jeunes gens de jardins luxuriants où il fait toujours beau, où c'est une espèce d'âge d'or pour lequel ils se battent.
Justement, vous en parliez de tous ces liens qui pouvaient se tisser dans ce village, et c'est vrai que c'est important de le souligner que dans cette histoire que vous nous racontez, il y a toute cette force aussi des liens entre les gens, de la solidarité, qui a quand même existé aussi à ce moment-là, entre la peur et puis l'incertitude. Il y avait aussi ça, et on le ressent très bien à la lecture de votre roman. Donc on va vous retrouver le 11 novembre à Château-Gontier, à la librairie Aime Lire. Donc finalement, Château-Gontier, même si vous ne vivez plus par ici, la Mayenne, vous la connaissez quand même, puisqu'on le disait au début d'entretien, que vous venez de Dent, en Mayenne.
Exactement, oui, exactement. Oui, c'est ce que je vous disais pendant très longtemps. Dent a été pour moi le condensé de la France, parce que mes parents vivaient à l'étranger et que je vivais à l'étranger avec eux, et qu'on rentrait pour toutes les vacances dans la maison des parents de ma mère qui leur avait racheté. Et donc, pendant très longtemps, ça a été tout ce que j'ai connu de la France. Et ce sont des souvenirs toujours, jusqu'à aujourd'hui, absolument merveilleux. Des amitiés aussi, pour certaines, qui durent encore jusqu'à aujourd'hui. Des souvenirs absolument lumineux, un vrai âge d'or, quoi. Vraiment, donc je suis très heureux potentiellement de retrouver... Voilà, les lecteurs et puis aussi tous les gens que j'ai connus à Dent, j'ai hâte de les revoir.
Donc ça va se passer de 10h à 12h30 à la librairie Aime Lire de Château-Gontier le 11 novembre. Donc l'occasion pour vous de rencontrer les gens et puis de dédicacer votre ouvrage. Merci d'avoir échangé avec nous sur votre roman et on sera donc ravis de vous retrouver le 11 novembre.
Merci à vous Margot, c'était très intéressant. Je vous remercie infiniment.
Merci. On referme le livre pour une pause musicale. Lucie, tu as choisi quelque chose.
Et oui, aujourd'hui, Margot, j'avais envie qu'on se réchauffe un peu en écoutant les Californiens Benjamin Clémentine et Florence Morisset, qui sont un couple qui nous éloigne un peu du brouhaha hollywoodien pour nous régaler avec un peu de poésie et de douceur. On écoute Calm Down de The Clementines.
Hey, Mr. Man, things are getting out of hand. There are no more rooms left to fill the gloom. Caring is an heirloom we can't afford to lose. Calm down, Mr. Man. No more pointing fingers. Calm down. Oh, calm down.
Thank you. Mademoiselle, don't mean to sound like a sodden greyhound. Not saying I'm a saint, but the world is gone insane. Excuses a luxury we can't buy every day.
Le service national universel, savez-vous ce que c'est ? C'est un dispositif pour les jeunes entre 15 et 17 ans qui existe depuis peu puisqu'il a d'abord été testé en 2019, puis mis en place en 2020. Pour l'instant, il est sur base du volontariat. Maëlle et Kelly font actuellement leur mission d'intérêt général après avoir effectué déjà leur séjour. Pour cette mission d'intérêt général, ils sont ambassadeurs du SNU. Ils nous en parlent aux côtés de Estelle Leprêtre-Kern, leur tutrice.
Estelle Leprêtre-Kern et j'occupe les fonctions de chef de projet Service National Universel pour le département de la Mayenne. Je travaille à la direction des services départementaux de l'Éducation nationale. Donc le service national universel, c'est un dispositif d'engagement en fait qui est proposé aux jeunes sur la base du volontariat. Et donc l'idée, c'est de leur offrir la possibilité d'expérimenter en fait l'engagement sous différentes formes. Donc d'abord par une première phase en fait de séjour de cohésion où ils découvrent la vie en collectivité, différentes activités citoyennes et républicaines. Et puis ensuite, ils ont un an à l'issue de ce séjour pour effectuer une mission d'intérêt général, donc auprès de la population. Et donc aujourd'hui, j'accueille deux volontaires qui ont déjà fait le séjour de cohésion et qui sont engagés dans une mission d'ambassadeur du SNU. Donc l'idée, c'est qu'ils puissent parler du SNU et faire connaître ce dispositif pour des jeunes qui actuellement ne connaissent pas ou se posent des questions pour pouvoir s'y engager. Donc il y a un site dédié en fait, snu.gouv.fr, donc qui regroupe un certain nombre d'informations sur le dispositif et qui permet également de s'inscrire sur ce dispositif. Donc la campagne d'inscription est lancée le 6 novembre, donc la plateforme sera accessible et on pourra s'inscrire en ligne pour les jeunes, sachant qu'il faut avoir 15 ans au premier jour du séjour de cohésion et encore 17 ans au dernier jour du séjour.
Bonjour, je m'appelle Maël Bacho et du coup je suis ambassadeur du SNU et j'ai fait mon premier séjour de cohésion à Blois cet été, en juillet.
Je m'appelle Kelly Yes et je suis ambassadrice au SNU et j'ai fait mon séjour de cohésion à Coutances.
Moi pour ma part mon séjour il s'est super bien passé, en sachant que c'est ma mère du coup qui m'a présenté le SNU, enfin elle m'a présenté mais j'étais pas pour, du coup elle m'a un peu forcé à le faire, mais j'ai passé un très bon moment et puis j'ai adoré parce que j'ai rencontré plein de nouvelles personnes. Et puis ça a été un séjour où on a fait beaucoup d'activités, c'était très divers et varié. Et du coup ça m'a permis d'apprendre des choses que je connaissais pas et dans un cadre où il y a eu beaucoup de choses telles que la cohésion et la solidarité, du coup j'ai beaucoup apprécié.
Donc c'est un séjour qui se passe en internat ?
Oui, on va soit dans les lycées, soit dans les VVF, mais c'est l'hébergement, on est nourri, logé et blanchi. Moi je l'ai fait dans le lycée agricole de Coutances dans la Manche. Moi, je dis c'est une expérience unique. On fait pas ça tous les jours, de partir dans notre département, de découvrir des gens, les valeurs de la République. On fait des activités, des sorties qu'on comptait pas faire avant.
Donc là, vous êtes sur votre deuxième journée avec Estelle Leprêtre-Kern. Qu'est-ce que vous avez à faire pendant ces deux jours ?
On a travaillé, on a essayé de voir quelles étaient les différences, par exemple, avec le SNU de l'année dernière comparé à celui qui se passera cette année. On a vu, Estelle nous a appris qu'on pouvait plus partir aussi loin pour un coût financier ou pour d'autres choses. Du coup, on est en train de voir la différence.
Qu'est-ce que ça veut dire être ambassadeur du SNU ?
C'est de valoriser le SNU et de motiver les jeunes à le faire.
Franchement, c'est un truc qu'il faut vivre parce que justement, ce qu'on parle surtout de la gratuité, parce que même si c'est quelque chose, on n'est pas sûr de pouvoir aimer, et même de toute façon, c'est une découverte, c'est une expérience. Et ça fait toujours rencontrer des personnes et c'est un milieu et un cadre dans lequel on n'est pas habitué. Du coup, ça nous fait sortir un petit peu de notre zone de confort. Et puis après, il y en a qui sont beaucoup réticents, par exemple l'éloignement de la famille, quand on sait qu'on va pas avoir notre téléphone pendant la journée. Et ça, c'est des choses qui font que des fois, ça repousse. Mais en vérité, ça repousse pas du tout. Et c'est grâce à ça, même des fois, qu'on arrive à passer vraiment une bonne expérience. Donc c'était pour une sensibilisation aux personnes qui ont un handicap. Donc par exemple, je sais pas si ça vous dit quelque chose, l'Ultimate, le sport. Et bah on a fait l'ultimate, mais du coup on s'est mis des boules qui est, et du coup on n'entendait rien du tout, et on devait trouver un moyen de communiquer donc sans la parole puisqu'on n'entendait pas. Et franchement, c'était un bon exercice qu'on n'aurait pas fait de soi-même, qui nous a montré les difficultés qu'une personne pouvait avoir avec son handicap. Et franchement, c'était un bon moyen de réaliser, parce que dire que quelqu'un est sourd, c'est quelque chose, mais le ressentir et le vivre, c'est différent.
Moi, c'est plutôt le module de la défense et faire l'activité l'autodéfense qui m'a énormément plu. Apprendre les gestes qui peut nous sauver si on se fait agresser, ça m'a vraiment plu.
Donc on aura différentes dates de séjour pour l'année 2024. Donc pour les jeunes qui souhaitent s'inscrire, on aura un séjour du 26 février au 9 mars. On aura un autre séjour du 22 avril au 4 mai. Et ensuite, donc on aura pour les classes de seconde particulièrement, on aura des séjours du 3 juin et au 14 juin. Et ensuite, une autre période du 17 juin au 28 juin. Et enfin, une dernière possibilité de séjour du 3 juillet au 15 juillet. Donc les jeunes sont invités à s'inscrire en choisissant la période qui leur convient le mieux par rapport à leurs contraintes. Je pense que ça leur plaît, cette expérience. C'est aussi une expérience de mobilité, hein, qu'elle soit à l'échelle d'un autre département ou d'une autre région. C'est toujours une très bonne expérience de mobilité, de quitter son cocon familial. Et donc ça peut être un échelon préparatoire à une éventuellement mobilité pour les études, par exemple, ou pour l'emploi. Donc ça, c'est aussi des intérêts du SNU. Voilà. Après, il y a des choses qui leur plaisent finalement. On voit que le port de la tenue, qui est parfois critiqué, ben les jeunes, ben ils s'y sentent bien. Il y a un esprit aussi de cohésion, puisqu'on est tous habillés pareil à certains moments du séjour, hein, bien sûr pas tous les jours. Et voilà, c'est aussi des choses qui finalement sont surprenantes, mais qui leur plaisent.
Vous êtes avec nous sur l'autre radio 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. C'est la JT du local, on est avec vous jusqu'à 12h45. Je sais que vous vous posez la question, quelle est l'humeur de Donatien aujourd'hui ? Eh bien, ce que je peux au moins vous dire, c'est qu'il nous parle aujourd'hui du changement d'heure.
Il est midi. Dans 2 heures, Donatien entrera en salle Henri Bergson, la petite salle du Palais des Congrès, une conférence d'1 heure devant une cinquantaine de personnes inscrites à l'Université du Temps Libre. Probablement une majorité de seniors, probablement une majorité de femmes, probablement retraitées et probablement légèrement dures d'oreille. Il faudra bien articuler et surtout ne pas parler trop vite, laisser du temps au temps. Cela tombe bien puisque le titre de la conférence, un peu ronflant, est « Le séquençage du temps ». La seconde, la minute, l'heure, la journée, la semaine, le mois, l'année, le siècle, l'éternité. Quelle perception du temps a-t-on lorsqu'on est enfant, ado, adulte ou senior, sachant que l'on peut être octogénaire et avoir gardé une âme d'enfant ? Donatien n'a aucune compétence pour aborder la question avec des données scientifiques. Il emmène son auditoire dans les chansons, la poésie, le romanesque. Avant toute fantaisie, il commence sa conférence par une introduction sur le rythme de publication des journaux, qu'ils soient quotidiens, hebdomadaires, mensuels, trimestriels ou semestriels. Ça se complique avec les bi. Les bimensuels, bimestriels, bihebdomadaires et bisannuels. Petit rappel, bisannuel ne signifie pas 2 fois par an, mais tous les 2 ans. Ce que savent les jardiniers qui cultivent les giroflées, les pâquerettes, les pensées et les œillets de poètes. deux fois par an se dit semestriel. Ainsi, les équinoxes et les solstices. Pour rappel, là encore, les équinoxes sont ces deux jours calendaires où le jour et la nuit ont une durée égale. On parle de solstice d'été pour la nuit la plus courte de l'année, généralement le 21 juin. On parle de solstice d'hiver pour la nuit la plus longue, généralement le 21 décembre. Semestriel également le changement d'heure qui revient deux fois par an. On avance, on recule, c'est le tango des aiguilles, la valse du temps. On ne sait trop ni pourquoi ni comment, on dort plus ou moins, on dort plus ou moins. Malgré les prothèses auditives, les auditeurs retraités, seniors et durs d'oreilles, au premier comme au dernier rang, ne saisiront pas tout. Tout comme Donatien au moment d'entrer dans la salle qui se rend compte brusquement qu'il a oublié de reculer d'une heure les aiguilles de sa montre. Le voici donc avec une heure d'avance. Ce n'est pas du temps perdu. Il va relire la conception intuitive du temps chez Bergson, le vol du temps suspendu dans les vers de Lamartine, la fuite du temps des amours chez Apollinaire. Ce temps qui va, ce temps qui sommeille, ce temps sans joie, le temps des merveilles, le temps d'un jour, temps d'une seconde, le temps qui court et celui qui gronde, le temps, le temps, le temps et rien d'autre.
Le temps qui va, le temps qui sommeille, le temps sans joie, le temps des merveilles, le temps d'un jour, temps d'une seconde, le temps qui court ou celui qui gronde, le temps, le temps, le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut notre, le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut notre. Le temps passé, celui qui va naître, le temps d'aimer et de disparaître, le temps des pleurs, le temps de la chance, le temps qui meurt, le temps des vacances, le temps, et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut notre, le temps, et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut notre. Le temps glorieux, le temps d'avant-guerre, le temps des jeux, le temps des affaires, le temps joyeux, le temps des mensonges, le temps frileux et le temps des songes. Le temps, le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps, le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps des crues, le temps des folies, le temps perdu, le temps de la vie, le temps qui vient jamais ne s'arrête et je sais bien que la vie est faite du temps des uns et du temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps, des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps, le temps, le temps, le temps.
Vous l'avez reconnu, c'était Aznavour avec sa chanson Le Temps. La JT s'arrête ici pour aujourd'hui. Merci Lucie d'avoir été à mes côtés. Vous avez écouté également Alexis Bloombergs qui présentait son dernier roman Le Fusil et la Soie. Et nous avons entendu deux volontaires SNU à Laval nous parler de leur expérience aux côtés d'Estelle Leprêtre-Kern, leur tutrice. Et pour terminer, c'était Donatien évidemment qui clôture cette émission en beauté comme toujours. Mais cet après-midi, ça continue sur l'autre radio.
Oui Margot, à 19h, on retrouve les rendez-vous de l'APES qui, pour ce deuxième rendez-vous de l'année, s'invite à la Biocop de Saint-Berthevin pour une émission en public.
Elle est suivie de Frères de Chaussures.
Exactement à 21h, Fatshu nous parle de rap français.
Merci Lucie, on se retrouve demain à 12h15. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Autrement dit, faites-le bien.
Oh, c'est déjà la fin, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
Et quand même, d'autres émissions qui sont bien aussi sur l'autre radio.